Jeudi 5 septembre, c'est la rentrée pour le nerf de la game. Mais oui, parce que on n'a pas fait d'émission. Ah si, on a fait une émission en août, genre pour faire on est encore vivant. Mais en vrai, là, ça va être vraiment le moment où c'est la rentrée du nerf de la game. Aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine ou presque, vous retrouvez un cocktail d'actu sur les pages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Salut Romain.
Salut Xavier.
J'adore cette musique, mais est-ce que tu peux la baisser, s'il te plaît?
Je trouvais ça plus intéressant que toi.
La rentrée est absolument sous les meilleurs augures. Je vois que t'es en forme et ça me fait plaisir.
Ça nous fait très plaisir d'être là, effectivement.
Est-ce que déjà t'as passé une bonne pause estivale? Parce que je sais qu'on s'est, on a fait une émission début août.
Oui, c'est ça.
Ouais, début août. C'est ça. Et déjà on était bien. Voilà, on avait fait un petit récap de ce qui s'était passé pendant toute la saison. Et là, en fait, on reprend la rentrée et en plus, on la reprend avec une émission tranquillou où on va pouvoir parler de jeux vidéo et pas des choses qui fâchent. Ne vous inquiétez pas, les choses qui fâchent, elles arrivent vite.
Elles arrivent très, très, très bientôt.
Très, très vite. Mais là, on va pouvoir parler de jeux vidéo vu qu'on va parler de la Gamescom.
Qu'est-ce que c'est la Gamescom ?
La Gamescom, c'est, eh bien, désormais, le plus grand salon du jeu vidéo au monde en termes de fréquentation, vu que c'est le plus gros salon de jeux vidéo public
en présentiel,
donc plus gros que la Paris Games Week, plus gros que le Tokyo Game Show et évidemment souvent le marqueur de la fin de l'été au niveau de l'actu du jeu vidéo, vu que le début d'été est marqué par
le Summer Game Fest qui est venu remplacer le 3.
Les machins qui se passent en début de juin.
C'est avec, ça.
Voilà, en gros, c'est l'été, il commence quand Geoff Keighley commence et il finit quand Geoff Keighley finit.
C'est ça, Geoff Keighley est le baromètre
voilà.
De l'année.
Voilà, c'est notre.
Il est là également à la fin de l'année pour les Game Awards.
C'est ça. C'est
Geoff Keighley est vraiment notre. Enfin, voilà. On sait quelle période on est de l'année quand on voit Geoff Keighley.
Voilà, c'est notre boussole qui indique le sud.
L'été, c'est à peu près. C'est normal. Tu vois, c'est à peu près par là qu'on va.
Exactement. Et donc, ce qu'on vous propose de faire pendant cette émission, c'est de revenir sur cet événement qui a eu lieu donc entre le 20 et le 25 août. À la Kölner Messe de Cologne.
J'ai pas compris un mot dans ta phrase là.
J'ai dit Cologne.
Oui, c'est ça.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu plusieurs conférences qui ont montré des jeux. Ah bah bien. Ah ben bravo.
Ah oui, bravo. Ils ont montré des jeux. Bravo.
Il y a eu donc des conférences qui ont montré des jeux et aussi différents journalistes qui sont allés sur place et qui ont testé des démos de développeurs qui avaient leur stand directement à la Gamescom et qui en ont rapporté plusieurs choses, que ce soit des vidéos ou des avis globaux, ce qui va nous permettre en fait de parler d'un petit peu de tout ça.
C'est ça. Et effectivement, la Gamescom, tu le disais, le plus gros cette année, ça a été un record en termes de nombre de personnes. Ils annoncent quand même 335 000 visiteurs.
C'est stupide.
C'est incroyable. Venant de 120 pays dans le monde. Et il y avait également énormément de choses qui étaient donc en diffusées sur Internet. Avec pas loin de 310 millions de viewers, de gens qui ont interagi avec les différentes diffusions, on va dire.
Oui.
Donc c'est quand même énorme. Donc 40 millions pour la première soirée, l'Opening Night Live par Geoff Keighley, comme tu le disais tout à l'heure. Enfin voilà, il y avait vraiment énormément de trucs. Ils ont augmenté aussi le nombre d'exposants. Ils ont, ben voilà, ça a été une sacrée année
oui.
pour la Gamescom, qui prend le relais en vrai de l'E3. Mmh. C'était le sujet d'un article d'ailleurs très récent de Kotaku, si je dis pas de bêtises.
Oui, parce que effectivement, juste pour rappel, l'E3 en fait historiquement est un événement professionnel, donc qui implique normalement uniquement les organes de presse, que ce soit du côté du coup de la presse internationale ou des constructeurs, développeurs, etc., qui vont plutôt présenter ça à des relais en tout cas de communication. Petit à petit, l'E3 avait voulu de plus en plus s'ouvrir jusqu'à sa fin globalement, là où la Gamescom a toujours été un événement public et qui de plus en plus a bénéficié de sa place à la fin de l'été pour être un relais de communication sur les jeux qui allaient sortir fin d'année et là en l'occurrence plutôt début 2025.
Enfin, oui, de faire un petit peu le lien entre le début de l'été, les choses qu'on nous a montrées. On a revu certaines choses qui avaient été annoncées ou montrées, même à l'E3, enfin au Summer Game Fest. Mmh. On a eu aussi des confirmations de certaines choses, et il y a eu des nouveautés aussi. Donc voilà, mais effectivement, oui, la Gamescom a pris une autre dimension.
Oui,
récemment.
C'est
surtout vrai. Cette édition-là.
Oui, c'est vrai parce que traditionnellement, en gros, l'E3, il y avait toujours les plus gros, les plus costauds, les très très gros qui étaient là et qui annonçaient leurs grosses nouveautés ou leurs gros projets pour les années à venir à l'E3, ou en tout cas sur le créneau de début juin. Et à la Gamescom, c'était une fois que les gros étaient passés, les projets, certes intéressants, mais souvent de moins grande envergure, qui arrivaient à la Gamescom et qui arrivaient à communiquer. Désormais, maintenant que, je vais pas dire que la frontière entre les gros et les moins gros est moins grande, mais surtout une année, je pense qu'on en parlera on en parlera dans les prochains mois, mais une année où les jeux à succès ne sont plus aussi
j'allais dire prévisible.
Ouais, non, sont plus aussi prévisibles et que, au final, un triple A ou un développeur indépendant peut finalement concourir avec le même type de succès. La Gamescom revêt aussi une importance nouvelle.
Mmh, complètement, ouais. C'est effectivement, comme tu le disais, l'E3 beaucoup plus axé professionnel. Mmh. La Gamescom est quelque chose de beaucoup plus hybride. Beaucoup plus mélangé, quoi, qui garde énormément de place pour les petits et qui ouvre aussi, enfin voilà, qui s'ouvre de façon générale. C'est un détail, mais la Gamescom, on dit la Gamescom de Cologne, mm-hmm. qui est la source, j'ai envie de dire, de la Gamescom, mais qui s'est déjà exportée. Il existe une Gamescom Latin America, il existe une Gamescom Asie, voilà, enfin il s'impose. D'une certaine façon, la présence, quoi.
Je peux pas te laisser dire, c'est il n'y a qu'une seule Gamescom dans le Fatland. Heimat.
Si tu le dis.
Non,
j'ai rien compris.
Non, d'accord, oui, voilà. Ok, bon, j'ai un peu un truc que j'aime bien l'Allemagne. Et que, voilà, je ne supporte pas que les choses ne soient pas centrées sur l'Allemagne. Voilà.
Mais du coup, ils ont quand même estimé, effectivement, qu'il y a 10% des visiteurs physiques de la Gamescom qui sont venus de l'extérieur. Donc, on serait sur 30 000 personnes, plus, qui seraient venues en Allemagne juste pour l'occasion.
Oui, et j'espère que bientôt, ce sera nous.
Oui, bah pas cette année, parce que c'est déjà trop tard.
Cette année, je pouvais pas, j'étais en train de me dorer la pilule ailleurs.
Alors oui, c'est vrai que pour bronzer,
voilà.
Cologne,
moyen.
C'est pas mon premier choix.
Choix. J'y suis allé, hein. Super ville.
Moi, j'étais pas loin cet été.
Ouais.
Et je suis pas monté jusque-là.
Ouais.
Oh, il faisait beau hein, sur les bords de la Moselle.
Mais bon, voilà.
Voilà, c'est pas la même.
Et aussi, alors juste d'un point de vue, juste personne qui essaye de, qui essaye de voir l'actu du jeu vidéo, ou en tout cas de voir quelles sont les choses intéressantes. Ce qui est bien, c'est qu'on a pu avoir plusieurs choses, que ça soit les trailers lors des différentes conférences, enfin il y en a eu deux ou trois, les démos qui étaient disponibles sur Steam et ailleurs pendant l'événement, et aussi donc, comme je disais, les journalistes qui ont pu tester des choses sur place et qui ont donné leurs avis sur des choses qui n'avaient pas forcément de vision à l'extérieur hors de ces avis-là. Et on va vous proposer un petit mélange de tout ce qu'on a retenu. On va pas faire comme pour le Summer Game Fest où on avait fait conférence par conférence et événement par événement. Là, on va un peu tout mélanger pour dire ce qui nous a intéressé. Est-ce que ça te va comme programme, Romain ?
Écoute, c'est pas mal. C'est pas mal. Effectivement, il y a eu et puis comme souvent dans ces séries, dans ces tunnels de conférences, des choses qui reviennent. Des choses qu'on revoit, des gens qui approfondissent certaines choses qui ont juste été montrées. Il y avait moins, effectivement, au Summer Game Fest, c'était énormément de conférences avec un nom, avec un projet, avec une approche.
Et au final, spécifique. Relativement peu de journalistes sur place pour tester les choses, parce qu'il y avait pas de, il y avait un espace physique qui était relativement restreint.
Donc c'est ça. C'est plus le 3.
C'est ça.
Qui avait ce rôle, enfin, qui avait vraiment cette ambiance-là. Le Summer Game Fest fonctionne différemment. Mm-hmm. On en avait déjà parlé sur la façon dont les conférences en elles-mêmes ont évolué, quelque chose de beaucoup plus contrôlé, de préparer à l'avance, d'organiser différemment. La Gamescom renouait peut-être un petit peu avec ce côté live dans la diffusion. Que ce soit l'Opening Night Live ou le Future Game Show, où il y a eu des choses comme ça qui étaient sans doute un minimum préparées, etc. Mais on était quand même dans quelque chose de moins calibré, peut-être,
oui,
je trouve.
C'est vrai.
Et on ne parlera pas des présentations, des présentateurs.
Non, mais justement.
Ça a été compliqué.
C'est surtout que je trouve que ça. Au final, le fait que les conférences soient plus ou moins bien animées, ça a moins d'importance à la Gamescom que pendant le Summer Game Fest, où le Summer Game Fest ne repose quasiment que sur ça. Alors que là, la communication, je trouve, elle est plus diverse.
Oui, oui, il y a beaucoup plus la place pour faire des petites discussions en dehors. On te présente les trucs, on te présente les trailers, les bandes annonces. Et puis, à côté, on peut en parler, etc. Il y a plus la place pour ça.
Entre guillemets, oui, présentation cringe, mais entre guillemets, bon, c'est pas trop grave. La même présentation au Game Award, on va tous se flinguer, hein, mais bon, ça, c'est autre chose.
On va attendre décembre hein, pour en reparler. Mais,
est-ce que tu veux commencer ou,
J'étais en train de chercher, en fait, exactement, parce que j'avais un petit peu fait le tri, la liste, un petit peu mis un petit peu du contexte autour de certaines choses qu'on avait vues.
D'accord.
Je suis en train de chercher ça.
Si tu veux, j'y vais.
J'en prie.
Eh bien, je vais commencer par une annonce qui m'a fait très plaisir, celle de Monument Valley 3.
D'accord.
Je commence exprès par un jeu vidéo mobile, parce que Monument Valley est un... j'allais dire un monument. En tout cas, un excellent jeu.
Commence pas comme ça, ça va être très long sinon.
C'est surtout, en fait, un excellent jeu mobile. Alors qui est relativement court, mais un jeu orienté énigme et qui avait beaucoup passionné sur son premier volet. Alors je vais peut-être dire, je vais pas me lancer sur une date, mais je dirais en tout cas début des années 2010.
Ouais, j'aurais une dizaine d'années minimum. Ouais.
Voilà, début des années 2010. D'ailleurs, c'était marrant parce que c'était vraiment la mouvance des entre guillemets jeux vidéo indé avec surtout une direction artistique très marquée.
Oui, oui, qui posait un petit peu les bases de ce qu'on appelle le wholesome aujourd'hui.
C'est ça. Qui avait vraiment, je vais pas dire cartonné, mais en tout cas qui avait vraiment subjugué les gens qui avaient joué par sa DA, par les énigmes par la simplicité en fait des contrôles aussi
qui était très très bien pensé pour le mobile.
Exactement, et c'est à cette époque-là il y avait pas encore de jeux, enfin c'était beaucoup de jeux flash, On parle de l'époque Angry Birds, etc. De Flappy Bird, etc. Là, on avait un jeu beaucoup plus avancé.
Et toujours, et qui avait vraiment bien intégré les possibilités du support mobile, en fait, du support tactile.
Et pour y avoir. Voilà. Et clairement, c'est un jeu d'énigmes hein, qui va jouer sur les notions de perspective et sur les travaux de Monsieur Escher, notamment. Et avec une DA très particulière qui fait qu'en plus, même le jeu aujourd'hui n'a pas vieilli. Parce que j'y ai joué il n'y a pas très longtemps, le jeu est extrêmement jouable, extrêmement agréable. Mon seul défaut, c'est qu'il est très court. C'est pour ça qu'il y a eu un Monument Valley 2, qui est lui aussi très bien, qui pousse le sujet un peu plus loin, mais qui est aussi très court. J'imagine que le 3 sera dans la même veine, mais la différence. Alors, c'est toujours le studio Us2. Qui développe le jeu et le truc c'est que là c'est Netflix qui a annoncé le jeu parce que le jeu sera en exclusivité sur les plateformes Netflix. D'ailleurs Monument Valley 1 et 2 arrivent aussi sur la plateforme Netflix dans les mois qui arrivent. D'accord. Sachant que le 3 arrivera le 10 décembre sur Netflix et alors c'est vrai que pour les nouveaux venus, bienvenue dans le nerf de la game. Pour les plus anciens, vous savez que je parle assez régulièrement de Netflix comme d'un fournisseur plutôt, en tout cas, je vais pas dire qualitatif, mais en tout cas généreux de jeux vidéo sur mobile. Oui. Voilà, un peu exact. Il y a avec son pendant de l'autre côté qui est l'Apple Arcade, qui est pour le coup certes généreux, mais moins mis en avant, je trouve, en termes de communication depuis quelques années.
C'est vrai.
Il y a eu un gros boom quand c'est sorti, et puis depuis, beaucoup moins de mise en avant.
Moi, j'entends beaucoup parler des jeux qui ont été sur l'Apple Arcade.
Oui.
Quand ils sortent de l'Apple Arcade et qu'ils arrivent sur Steam, par exemple, ou ce genre de choses. Et c'est là que j'apprends qu'ils avaient eu une première vie sur l'Apple Arcade.
Alors que, bon, on a déjà parlé souvent de l'économie du jeu vidéo de Netflix qui est pas encore prolifique, en tout cas, qui a pas le succès escompté d'un point de vue sous, mais ouais. En tout cas d'un point de vue communication, je trouve qu'ils font en tout cas le bon boulot en prenant en gros une série qui est très plébiscitée et qui est très orientée mobile et même casual gamer,
sachant que comme Netflix a clairement ciblé le mobile.
Voilà.
Les jeux Netflix proposés par Netflix, auxquels on a accès quand on est abonné Netflix,
sont orientés mobile.
Sont sur mobile.
Voilà, ils sont sur mobile, sur tablette, mais ça va pas plus loin. Vous n'aurez pas un jeu sur console ou sur PC.
Ça arrive même peut-être des fois après, mais en tout cas les premières.
Souvent, en fait, ils vont avoir peut-être ils vont avoir acheté des studios qui vont faire des jeux ailleurs, mais ces studios-là vont d'abord produire sur mobile et peut-être il y aura une version ailleurs.
C'est ça. Voilà. On pense au Death d'Oxenfree.
Notamment. Oxenfree 2, qui est d'ailleurs, pour moi, un jeu qui est beaucoup plus orienté avec manette ou avec contrôleur que sur mobile à la base.
Il y a eu aussi la suite de Soldat Inconnu d'Ubisoft.
Oui, voilà. Qui a été
une très très bonne série de jeux.
D'ailleurs, j'avais trouvé le jeu moins intéressant deuxième moins intéressant que le premier, mais entre guillemets, en tout cas en termes de DA et en termes de recherche, on était sur quelque chose de très avancé pour une production mobile. Voilà, est-ce que tu veux
je vais parler d'un jeu dont on a entendu à nouveau parler très récemment, donc qui a été présenté, donc c'est We Harvest Shadows. Qui est en fait un mélange.
On récolte les ombres, c'est ça?
C'est un peu ça. Donc on est à moitié dans le jeu, ce qu'on appelle le jeu cosy. Donc le jeu, un petit peu le farming sim. C'est-à-dire qu'on va simplement gérer une ferme,
tu n'as pas le droit de dire les mots farming et simulator dans la même phrase en face de moi. C'est interdit, ça. Tu le sais, ça.
Oui, mais j'ai pas dit 2025. Mais. Et du coup, voilà. Donc, on est vraiment dans cette optique-là, ce genre de jeu un petit peu où on gère un petit peu où on cultive son jardin, comme le dirait Voltaire. Mais où, à la différence d'un Stardew Valley, à la différence de, je sais pas, enfin, pas Animal Crossing, mais ça fait partie un petit peu du deal.
Bah, de Harvest Moon.
De Harvest Moon, mais qui est oui. Voilà, de ces jeux un petit peu où on travaille d'une certaine façon, mais en mode vraiment détente, etc. Et qui vient mettre ça dans un univers beaucoup plus flippant. On est à la croisée entre effectivement le jeu cosy et le jeu d'horreur. On voit des choses un peu dérangeantes. Donc en gros, la journée, on s'occupe de sa ferme, on fait pousser les trucs. Et puis la nuit, on se défend contre des créatures cheloues qui sont pas contentes. Et ce qui m'intéresse déjà à l'origine dans ce jeu, c'est son aspect. Donc on fait ça en vue à la première personne, donc très immersif. Ce qui est parfait pour les jeux d'horreur, ce qui est plus surprenant pour un jeu comme ça de gestion entre guillemets d'espace agricole, on va dire. C'est une œuvre de l'américain David Vail, qu'on connaît pour le jeu d'exploration où on dirigeait un renard qui s'appelle The First Tree, qui avait une petite direction artistique un petit peu colorée aussi. Voilà, c'est pas son premier jeu, mais c'est déjà, c'est un habitué des petits jeux indés. The First Tree avait quand même pas trop mal marché. On l'avait beaucoup retrouvé en bundle pendant un temps aussi. Et en fait, il l'a présenté comme ça. Il a fait sensation. Il a quand même attiré l'œil de pas mal de monde. Et il a très récemment, donc genre il y a deux jours ou trois jours, fait un petit débrief finalement de ce que la Gamescom, de ce que présentait son jeu à la Gamescom lui avait apporté. Donc déjà environ 60 000 personnes l'ont mis en liste de souhaits. Donc c'est quand même très correct.
Bien.
C'est quand même très correct. Ça lui laisse espérer des bonnes ventes quand le jeu sera fini.
Ben en gros 60 000 en wishlist en général, tu sais que tu as entre un tiers et une moitié qui se traduit en vente.
C'est un tout petit peu moins, mais c'est dans ces eaux-là, ouais, en général. Donc ça risque effectivement pour un jeu développé par une personne en mode un petit peu indé sur un. Je sais pas exactement quelle est l'ampleur du jeu. Et c'est d'ailleurs toute la question parce que au moment où il a annoncé effectivement avoir accumulé 60 000 wishlist sur Steam à la sortie de son trailer, il a aussi posé la question en fait aux gens: est-ce que vous voulez que je fasse un jeu relativement modeste dans les 15 $ en termes vraiment tu vois d'ampleur quoi d'ambition quelque chose de plus enfin voilà une expérience intéressante qui dure quelques heures etc. ou est-ce que je vais me tourner vers un éditeur pour avoir plus de moyens et aller plus loin dans le projet, par exemple éventuellement proposer du multijoueur en coopération pour gérer la ferme et pour gérer la défense de la ferme la nuit.
Est-ce que les gens n'ont pas dit on reste petit ?
Alors en fait il a ajouté un détail qui est très intéressant je trouve, c'est qu'il a dit quand j'ai proposé mon jeu l'année dernière aux éditeurs, ils m'ont tous fermé la porte au nez. J'ai proposé mon trailer à la Gamescom, j'ai accumulé mes wishlists, ils sont tous revenus en rampant. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je leur dis « Ok, vous m'avez jeté l'année dernière, quand je proposais mon truc ?»
Connaissant les gamers, la mentalité des gamers, c'est tu les envoies tous aller se faire voir.
C'est globalement un petit peu le... Voilà, ça se passe sur Steam, hein, les gens mettent leurs commentaires, argumentent, présentent les choses. Et du coup, effectivement, c'est globalement le message.
Va pas voir les éditeurs, après ton jeu, il va devenir woke.
Ça n'a pas été trop ça, globalement. C'est pas le profil, je dirais.
D'accord, ok.
C'est pas vraiment le profil. Donc, la discussion en plus est relativement intéressante, je trouve, à suivre. Il y a plusieurs centaines de réponses maintenant, donc c'est un peu plus compliqué à juger la pertinence de tout. Mais c'est. J'ai bien aimé la démarche d'apporter les choses. Et ça montre une partie, une vision, enfin un angle, je dirais, de l'industrie, qui est de comment est-ce que les éditeurs abordent les propositions et comment ils réagissent.
Monte-moi tes wishlists.
C'est ça, mais il est venu avant d'avoir de la visibilité. C'était pas n'importe qui, parce qu'il a quand même vendu quelques jeux avant.
On a déjà parlé auparavant, justement avec la, on va dire, crise qu'on voit en ce moment, les éditeurs réduisent les risques au minimum.
Et c'est pour ça que c'est relativement logique que ça ne soit pas forcément très bien passé à la première présentation, et que maintenant qu'il a une vraie visibilité, beaucoup plus en tout cas, qu'il a été cité dans des magazines...
Et bien ton jeu, tu veux pas venir chez nous ?
Il y a un peu de ça. Et du coup, c'est intéressant. C'est intéressant qu'il le déclare, je trouve.
Oui,
c'est intéressant qu'il l'apporte comme ça et qu'il pose la question. Je pense aussi que lui-même a déjà son... son avis là-dessus, mais...
S'il a communiqué là-dessus, c'est qu'il avait déjà l'intention de leur dire merde, hein, mais bon.
C'est une bonne question. C'est une vraie bonne question. Mais du coup, bon, pour l'instant, la discussion, comme je te dis, ça, c'est arrivé lundi ou peut-être dimanche, je sais plus quand est-ce qu'il a posté ça, mais c'est extrêmement récent. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas encore de décision officielle d'annoncer. Mais j'ai bien aimé la façon dont il a exprimé ça, où il a vraiment dit le mot « ils reviennent maintenant en rampant » parce que j'ai montré que mon jeu pouvait avoir de l'intérêt. Voilà.
Très bien. Eh bien, moi, je vais parler d'un jeu auquel j'ai eu la chance de pouvoir jouer pour la démo. Mm-hmm. Un jeu que j'appellerais un jeu qui a été fait pour Ashcrew, mon copain Ashcrew.
D'accord. ça peut vouloir dire beaucoup de choses. C'est pour ça.
C'est parce que c'est un jeu ultra historique.
Ok.
Qui s'appelle The Darkest Files.
Oui.
Un jeu en fait d'affaires, un jeu donc fait par le studio allemand Pain Bucket Games, et c'est un jeu d'affaires non résolu. En fait, on se situe en Allemagne, 10 ans après la Seconde Guerre mondiale, et en fait, on est dans un bureau d'un procureur qui veut résoudre les affaires non résolues qui ont eu lieu juste après la guerre.
Mmh.
Pas très populaire le type, évidemment, parce que à cette époque-là, on est en mode mettons ça sous le tapis, l'histoire est vieille, tout ça.
On est d'abord en mode occupé, oui. Mais ensuite, effectivement.
Voilà,
oui.
Et surtout que je vais être généreux, les trois quarts des gens qui ont repris des postes de pouvoir en Allemagne sont des anciens nazis.
C'était compliqué de ne pas en trouver. Hein. Oui. Il y en avait quand même beaucoup qui,
oui,
par
non,
idéologie ou pas, d'ailleurs.
Il y a une différence entre nazis convaincus et puis nazis parce que l'Allemagne est nazie.
Oui, voilà. Et puis de gens qui s'adaptent en fait à leur environnement.
Voilà.
C'est un peu comme les résistants et les collabos en France. Hein. Il n'y a pas moyen de faire une différence. Hein. Entre les deux situations de gens qui prennent des décisions pour survivre, tout simplement.
Vous savez, moi, je ne connais que l'histoire allemande. Et...
Il y a une différence.
Écoute, en termes d'occupation, il y a une légère différence.
Oui, bon. Mais oui, j'étais en Allemagne cet été.
Oui,
effectivement,
oui.
J'ai vu des monuments qui rappelaient que cette partie de l'Allemagne a été occupée par la France jusqu'en 1949.
Voilà. J'espère que tu as vu aussi les bases militaires qui vont avec.
Non. Mais il y avait un camp de travail à côté.
Ah, les STO. Hey,
quand même.
Les STO, de jamais oublier. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu d'enquête. C'est un jeu de pure enquête. D'ailleurs, c'est assez intéressant vu que, dès le début, on a deux modes. Un mode en mode jeu d'enquête où on te donne aucune indication et tu te démerdes.
Mmh.
Et une partie un peu plus narrative. Et c'est effectivement, ça a son importance parce que, en tant qu'assistant du procureur, on va te donner un dossier. Et dans le dossier, il va falloir que tu pointes les différentes choses qui sont intéressantes dans les dossiers,
okay,
pour ensuite interroger les témoins, les accusés, les mis en examen,
mmh,
et les mettre face à leur éventuelle contradiction. Donc en fait, il y a un côté un peu aussi, alors peut-être pas aussi grandiloquent, mais il y a aussi un petit côté Ace Attorney, on va dire.
Oui.
Pas grandiloquent, parce qu'on n'est pas au tribunal.
Les cartoons, oui.
On n'est pas au tribunal, on est dans une salle d'interrogatoire d'un procureur. Donc c'est pas.
D'accord.
Il n'y a pas.
C'est pas le moment de prendre la décision de la condamnation.
Voilà. Mais par
c'est
contre,
le moment d'aller chercher les infos.
Mais la mécanique de Ace Attorney, c'est de mettre les gens devant leurs contradictions, mm-hmm, et qu'il y a pas mal de ça. Par contre, effectivement, hein, le contexte, il n'est pas cartoon du tout. Rien que dans la démo, je me suis retrouvé en fait à essayer à savoir. Attends, donc là il a deux chevrons, c'est-à-dire qu'il est commandant. Par rapport, donc s'il dit que l'autre lui a donné l'ordre, c'est peut-être pas possible. Ce genre de choses, quoi.
D'accord, ce genre de contradiction. Donc.
Voilà. Mmh. Pas que le côté parce qu'en fait c'est des entre guillemets, c'est inspiré de vraies enquêtes,
mmh,
de vraies affaires qui ont eu lieu, donc. Enfin, moi, il se trouve que moi, je trouve ça extrêmement intéressant de s'intéresser à ce genre de périodes qui sont souvent, tu sais, les périodes de grande réconciliation. un truc, par exemple, en France, alors je sais, en France, je sais que c'est une période où le général de Gaulle a choisi de tout mettre sous le tapis pour la grande réconciliation. Pour les, voilà. Et en Allemagne, ça a été plus le non, on va mettre le nez dans le caca. Ça a été plus la politique du truc.
Oui, il y a eu une vraie dénazification voilà. D'aller chercher voilà. Les coupables et les responsables.
C'est ça, ce qui n'a pas été le cas en France.
Non, non, ni en Autriche. Bah, on en parlera, c'est pas le problème.
Le jeu, il a lieu en Allemagne, pas en Autriche, on se demande bien pourquoi. Voilà. Et puis...
puis bon, fallait trouver ceux qui n'étaient pas partis en Amérique du Sud. Oui, mais oui, c'est encore un autre problème.
Oui, oui, et puis bon, par rapport à la... par rapport au côté... pas dénazification, mais donnons les responsabilités à ceux qui en ont eu à l'époque. J'en parlerai bien au président Mitterrand, mais bon, bref.
C'est un peu tard.
c'est un petit peu trop tard.
C'est un petit peu tard.
C'est un petit peu trop tard. 14 ans président, quand même, pépère.
Mais du coup, c'est un thème intéressant.
Oui, super intéressant.
Et la question, c'est comment est-ce qu'il va être traité, parce que ça reste extrêmement sensible.
Oui, et ben alors, en tout cas, en termes de gameplay, c'est traité. En tout cas, c'est un jeu à la première personne qui est traité comme un walking sim d'enquête.
Ok.
Ok. Avec du coup un côté plus ou moins accompagné dans l'enquête selon le thème que tu as choisi. Mais en tout cas. Alors, la première enquête auquel j'ai pu jouer dans la démo, c'était une affaire de meurtre.
D'accord.
Voilà, une affaire de meurtre de certains qui vont dire « c'était la guerre, on a fait ce qu'il fallait », et d'autres qui disent « bah non, c'était un meurtre de sang-froid ». Voilà. Donc,
oui, une situation encore plus compliquée, parce qu'effectivement, la frontière, voilà. Elle est fine.
C'est ça. Et donc, on n'est pas encore sur des affaires... qui implique des juifs ou qui implique des personnes spoliées.
Okay.
On était sur, en gros, quelqu'un a été tué sur soupçon de collaboration ou soupçon de sabotage.
D'accord.
Okay. Donc, je parle de, c'est la première enquête. Mmh. Je ne sais pas ce qui va être par la suite, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le fait que, j'ai pas vu quelque chose d'édulcoré dans les affaires.
D'accord.
Et ni même dans les personnages qui sont autour, parce qu'en gros, il y a le personnage du procureur qu'on n'incarne pas. Nous, on est l'assistant du jeune assistant du procureur. Le procureur qui est en mode je vous fais confiance, mais bouclez ça. Enfin, faut que ça soit propre et net. Parce que sinon, vu que tout le monde nous observe, on va se faire crucifier si vous foirez. Et tu vas avoir un autre assistant du procureur qui, lui, est en mode. J'ai pas que ça à foutre. T'es parti dans trois semaines, vu que tu tiendras pas parce que les affaires sont trop dures.
D'accord.
Et je trouve ça assez intéressant en fait, parce que ça me paraît assez réaliste aussi.
Complètement.
Donc, globalement, un jeu qui me paraît extrêmement intéressant de ce point de vue là. Avec une DA qui est très BD européenne, on va dire, qui m'a presque fait penser à du Tardy des fois sur des personnages.
Complètement.
Donc, en tout cas, voilà. Un jeu.
C'est mon vieux Nestor.
Oui, c'est ça. En tout cas, un jeu qui m'a paru vraiment très intéressant et wishlist, pas loin de Day One. Voilà.
Alors, j'hésitais moi à parler de ce jeu-là, mais je trouvais que c'était intéressant. Pour son histoire. Alors, le jeu en lui-même, en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est Masters of Albion, de notre grand ami depuis des dizaines d'années, Peter Molyneux.
En fait, tu ne veux pas parler de Masters of Albion, tu veux parler de Peter.
Exactement.
Voilà.
c'est intéressant de le voir revenir. Peter Molyneux,
il part jamais.
Ça fait un moment qu'il n'était pas revenu sur le devant de la scène.
Oh là là.
Dans ce genre de contexte.
Et puis le tapis rouge qu'on lui a déroulé à cet escroc.
Ah, bref. C'était compliqué.
Peter Molyneux,
c'est Bullfrog. Principalement.
Je veux dire que c'est bullshit.
Aussi. Ça marche aussi. Mais à l'époque, c'était des jeux.
Alors,
Des vrais jeux.
Ça a été le créateur de vrais grands jeux.
Et de vrais concepts. Qui
Populous,
ont donné.
C'est un vrai concept.
Populous, Film Park,
Magic Carpet,
Film Hospital, tout ce qui a découlé finalement de ces jeux de gestion un petit peu déconnants, etc.
Bah, les Two Points viennent de là. Hein.
Les Two Points sont une c'est un héritage. Oui. Enfin, mais avec les défauts qui vont avec. Ils n'ont pas forcément pris toutes les vraies qualités du jeu, d'ailleurs. Des jeux, d'ailleurs. Il y avait aussi. En fait, c'est quelqu'un qui voulait faire des jeux où on jouait Dieu. C'était
oui,
son projet.
Oui,
bah, avec, et si complètement Black avec, avec Black ou... and White, ouais. Qui était le paroxysme de ça.
Qui était, ouais. Enfin, je crois que le paroxysme, c'était le jeu où il fallait taper sur les cubes. Fallait appuyer sur les surfaces d'un cube avant d'avoir la fin.
Ouais, mais c'est beaucoup plus loin, ça. C'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard, ça.
Escroc !
C'est beaucoup plus tard. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Il y avait eu Dungeon Keeper aussi. Dungeon
oui,
Keeper, qui
oui,
était un jeu de gestion où on jouait le méchant.
Un beau bordel.
Mais où on jouait le méchant, quand même. Où on devait gérer, en fait, un donjon que les gentils devaient explorer. Et on devait jouer le gérant du méchant donjon qui devait exterminer les gentils héros qui venaient piller son donjon, en fait. Et c'était intéressant comme approche. C'est quelqu'un qui avait quand même des approches...
Je suis même à peu près sûr que, même si ce sont des types de jeux qui n'ont rien à voir, je pense qu'il n'y a pas Dungeon Keeper, il n'y a pas un jeu comme Tyranny.
Par exemple. Où finalement, c'est vrai que je ne sais pas à quel point c'est le premier jeu où on jouait le méchant.
Mais
entre guillemets.
C'est le premier jeu où c'était mis en scène de façon aussi explicite.
Et puis qu'il y a eu un vrai succès.
Oui.
Et puis, Peter Molineux aussi. Il ne faut pas oublier, c'est Fable.
Oui.
Ce qui est une série dont on va revoir une itération très bientôt.
Fable 3, ouais, qui arrive.
C'est pas le 3. Hein,
c'est le 4
que... Ouais, je crois que c'est. Enfin, c'est pardon. Ou reboot ou ce que tu veux. Enfin,
oui,
bref.
Parce que j'avais pas la Xbox, donc c'était. Et c'était des jeux. Alors, certes.
Parce que le 3 est de 2010. Mais...
Certes, ils sont sortis sur PC, mais c'était des jeux très axés Xbox, donc j'y ai pas joué.
C'est ça. Mais du coup, bah, globalement, oui, j'allais dire Fable, c'est. Fable 3, c'est 2010. Depuis, c'est compliqué. Depuis, c'est compliqué. Notre ami Peter, il a quand même... au moment où Microsoft a fermé Lionhead, donc le studio qui était sur les Fables, d'ailleurs, à l'origine, il est un peu parti, il est un peu parti en vrille. Il est parti sur, bah, sur les NFT, en fait. Je vais faire un raccourci, mais parler de son dernier projet, en fait.
Non, mais il n'est pas parti que sur les NFT. Il est parti sur toutes les tendances pourries qui allaient se casser la gueule de manière générale, constamment depuis 2010.
Globalement, voilà. Mais le dernier est un vrai un condensé de tout ça.
Oui.
Clairement. Avec, donc, effectivement, il a passé 5 ans à bosser sur son jeu. Un jeu à NFT, complètement passé inaperçu. Qui est fait par le studio qu'il a donc créé pour l'occasion, qui s'appelle 22 Cans, et qui donc voilà, enfin c'est quand même quelque chose de compliqué. Il avait fait un financement participatif et évidemment vendu des NFT pour financer son jeu, qui sont jamais allés nulle part, mais qui ont quand même rapporté plusieurs millions, voire dizaines de millions, je sais plus exactement la somme, mais ça avait quand même rapporté du pognon. Pognon avec lequel il développe aujourd'hui Masters of Albion. Albion qui est l'univers dans lequel se déroule Fable. Donc, alors il avait fait une déclaration, je crois, un peu après la présentation à la Gamescom, disant que Albion, en fait, n'appartient à personne, n'est pas très remarquable. il a le droit d'utiliser, etc. Enfin,
bien sûr.
Bref. Mais toujours est-il que bah, Masters of Albion, c'est un jeu à la Molineux, ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. C'est-à-dire
c'est
des jeux qu'on. C'est un good game, qui a environ 15 ans de retard techniquement, hein, globalement, qui est quand même dégueulasse, visuellement. Enfin, je vois pas trop comment le dire autrement. Et on ne sait pas vraiment ce que ça va raconter. Ça veut tout faire et rien faire. Enfin, ça veut absolument. Ça part dans tous les sens. Ça part clairement dans tous les sens. On veut te raconter une histoire, te laisser une liberté de construction d'une sorte de ville. La nuit, il y a des créatures qui t'attaquent. Enfin, il a tout pris, comme tu dis. Hein, il a tout pris les tendances, les machins, avec des héros qui ont des pouvoirs et qui vont progresser. Un monde ouvert. Bref, il a encore tout mis. Hein, quand on lui a demandé quels éléments il voulait mettre dedans, il a répondu oui, globalement. On ne sait pas où ça va, on ne sait pas ce que c'est, c'est. Et comme tu le disais au tout début, on lui a donné pas mal de visibilité quand même.
Et moi, ce que je ne comprends pas, surtout avec un type comme Molineux, c'est que vu ce qu'il fait, et vu sa réputation même avant, c'est-à-dire quand il faisait des très grands jeux, de comment il manageait les gens, Je vois pas comment des gens aujourd'hui peuvent se dire tiens, je vais bosser avec Molineux, c'est une bonne idée, parce que le type avait déjà une réputation de tyran et de gigantesque connard avec...
Très égocentrique.
Avec,
pas forcément connard, mais très égocentrique, très et en tout cas, à écouter que lui-même.
À écouter que lui-même, et surtout n'en avoir rien à taper des conditions de travail des gens avec, pour qui bossaient pour lui.
Oui, mais ça, bon, dans les années 90, c'était la norme.
Non, oui, d'accord, mais le truc, c'est qu'il a pas changé depuis. Et je dis, mais qui travaille sur ce jeu-là en se disant, hey, c'est cool, c'est Peter Molineux, je suis sûr qu'il va me payer à temps et je vais faire des heures normales, quoi.
Et au-delà de ça, Molineux avait aussi le défaut de s'inspirer de ce qui marche. C'est-à-dire qu'il se passait quelque chose, quelqu'un proposait quelque chose. C'est un des premiers, finalement, dont on a eu des échos, des retours, et on l'a su pour Black and White. En mode, tiens, il y a ça, j'ai envie d'y rajouter. J'arrive le matin, je dis à l'équipe de développement, tiens, il faut rajouter ça dans le jeu, quoi. Mais genre pour maintenant. Et oui. Comme tu dis, au niveau de la gestion des gens, de la gestion du travail, du flux, etc. Quelqu'un qui travaillait de façon... c'était possible sur des projets beaucoup plus cadrés, j'ai envie de dire, que l'était Dungeon Keeper, que l'était Fimos Film Park, que l'était ces choses-là.
Ben, Dungeon Keeper, c'est à cause de ça notamment, le fait on rajoute que... Alors oui, le jeu est un univers très rigolo, mais il est strictement injouable à partir du moment où il s'agit de se taper.
Oui.
C'est un bordel sans nom à partir du moment où il faut techniquement pas gérer, mais jouer. Mmh. Et c'est chaud, quand même.
Oui, parce qu'en plus de ça, rappelle-toi, on pouvait rentrer dans la peau d'un personnage, d'une créature qui défendait son donjon et jouait à la première personne.
Ça, je pense que c'est un rajout à la con, parce qu'il a dû voir une partie...
Il a joué à Doom à un moment.
Voilà, c'est exactement ce qu'il dit. On s'est dit pareil.
Mais donc, c'était intéressant de le voir revenir, je trouve.
C'est pas le mot que j'aurais expliqué, que j'aurais utilisé.
Flippant, triste. Triste, moi, je pense surtout. Parce que
scandaleux. Foutez-moi ça dehors.
Et il a vieilli, hein, le bougre. Il était compliqué.
Pas assez.
C'est compliqué.
Pas assez. En tout cas, il était pas assez vieux pour ne pas pouvoir monter sur scène. Donc, c'est encore un problème.
Mais il avait les 100 000 dollars nécessaires pour être dans la Opening Night Live avec Geoff Keighley.
J'imagine un peu plus parce que...
C'est ce qui est ressorti au niveau des infos, que c'était 100 000 balles. Le Summer Game Fest était 250 000 pour un trailer de 1-2 minutes.
Ouais, c'est ça.
Là, c'était un peu moins. Mais c'était quand même pas accessible.
Mais le truc, c'est qu'il y a eu le trailer plus la venue. Donc, peut-être
ça a duré 4 minutes, en tout 4-5 minutes.
Hein. Non, mais peut-être que venir sur scène, c'est un peu plus cher. Mais bon, bref.
C'est possible.
Très bien. Je déteste tout ce que tu as dit.
Bien sûr. le choix du jeu et du personnage, je pense que oui, ça t'a fait très plaisir.
Voilà. Donc, je vais plutôt parler d'un jeu auquel j'ai pu jouer.
Oui.
Voilà.
Parce que toi, tu joues à des jeux.
Oui,
vraiment.
Où
va-t-on ?
Parce que toi, tu regardes des trucs. Hein, toi tu fais semblant de jouer à des jeux, espèce de balim. Moi je joue à des trucs.
On va se calmer sur les ensuite, très très vite.
J'ai joué à un jeu qui s'appelle Goodbye Seoul.
Yes.
Tu connais ?
Oui.
C'est
très content que t'en parles.
Donc un jeu de Gino Game. Donc comme le nom l'indique, c'est un jeu coréen. Pas de piège cette fois-ci. Pas de piège pour une fois.
C'est vrai, non.
Non, des fois on a des trucs un peu particuliers, mais là il n'y a pas de piège. Un jeu qui sortira en 2025 et globalement c'est un puzzle platformer. Quand on dit puzzle platformer, j'aurais presque plus dit cinématique platformer parce que c'est un jeu qui va beaucoup jouer sur son scénario et sur sa mise en scène. Un jeu déjà, le premier truc qu'on remarque c'est mais qu'est-ce qu'il est beau, sa race.
Oui, c'est un style. Je savais que ça te conviendrait.
Oh là là,
c'est très 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 bien animé.
Il est superbement animé. Les décors, mais ils ont pas le droit de faire des décors pareils, surtout des décors qui des décors vivants qui bougent en parallaxe en même temps. Enfin, c'est
pas révolutionnaire en soi, mais très bien fait.
Alors une fois de plus, moi je crie pas à la révolution. C'est beau. Putain, qu'est-ce que c'est beau! Et surtout, c'est le genre de truc où d'habitude, tu vois ça en démo, ou. Non, pas en démo, en trailer, ou des images comme ça, mais une fois que tu joues, tu fais. C'est pas. Non, là, tu joues, tu fais OK.
Oui, il s'appelle ce jeu qu'on n'a plus jamais revu, The Last Night?
Oui, ouais.
Hein, pardon. C'est complètement un autre sujet, et ça prendrait une émission.
J'ai failli parler de Replaced, mais ce serait une autre fois.
En fait, une heure, c'est beaucoup trop court. Mais vas-y, vas-y.
En fait, c'est surtout... voilà, le pixel art est impeccable.
Ouais.
L'ambiance, surtout l'ambiance très post-apo, parce que voilà, tu me donnes du post-apo parce que là on y est. Enfin, c'est techniquement pré-apo, mais pas loin, parce que on est dans une ambiance où on se demande ce qui se passe, pourquoi tout le monde est apathique, pourquoi tout est pété. Et globalement, c'est un peu l'histoire de, il y a une catastrophe. Il y a une catastrophe qui va arriver, qui va apparemment annihiler au moins Séoul, voire toute vie sur Terre globalement, qui arrive dans quelques jours. Et tout le monde choisit son camp. Enfin, en gros, soit je fais ce que je veux, soit je suis sous le choc et je sais pas quoi faire, soit je pète tout. Et en fait, la vie est dans un état absolument lamentable, en ruine, parce que tout le monde a fait n'importe quoi. Et c'est normal et intéressant. Alors la partie gameplay, un petit peu rigide. Les puzzles sont plutôt classiques, mais plutôt efficaces. Certains, notamment justement, grâce à l'intégration et au pixel art qui est de très bon niveau, qui fait que il y a certaines énigmes qui sont pas aussi évidentes que si on t'avait mis « Hey, va voir ça, quoi ». Mais si on t'avait pointé en disant « Ah ben tiens, parmi ce superbe décor, il y a un truc qui est moins bien fait, alors tu vas y aller ». Donc c'est mieux foutu. J'ai fait exprès de pas finir la démo en me disant « Non, ça, je sais que le Day One, je vais pas aller plus loin parce que je sais que je vais me faire très 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 plaisir ». En gros... C'est comme si c'était un inside, mais beaucoup plus, je vais dire, plus scénarisé et qui va moins te laisser place à ton imagination en mode inside. Tu demandes tout le temps, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Là, c'est beaucoup plus premier degré, on va dire. La narration est beaucoup plus premier degré, mais je trouve qu'il y a une vraie qualité en termes d'ambiance qui est primordial pour ce type de
jeu, quoi, bien sûr, ouais. Et qui sont des jeux narratifs mais qui sont complètement portés par l'ambiance qui va avec, quoi,
exactement. Et donc voilà, Goodbye Seoul, ça sort en 2025. J'ai jamais entendu parler de ce studio coréen, et je sais que en gros les studios coréens, les seuls que je connais, c'est ceux qui font des MMO. Donc j'imagine que c'est pas un énorme studio, mais en tout cas ils ont rien que sur la démo, ils font un boulot où tu fais ah ouais, je vais les suivre parce que
donne envie. Ouais.
Ah, ils donnent vachement envie. Ouais.
Du coup, il me reste le temps de parler d'un jeu. Et le choix est pas facile parce qu'il y en a quand même eu quelques-uns qui valaient le coup d'être mentionnés.
Alors t'as le choix. Peut-être que je te propose de faire peut-être un name dropping avec quelque chose de court si tu veux en mettre plusieurs.
J'ai envie de dire Atomfall.
Ouais, ok. Le post-apo en Angleterre.
Oui, en gros c'est Stalker mais en 1939, quoi. Qui avait déjà été présenté, notamment au Summer Game Fest, et qui était vraiment très très emballant, vraiment ce côté en vue à la première personne. Le mélange entre le jeu de tir et puis le jeu un peu, je dirais, entre le Fallout, le Stalker, où on découvre des choses, où on fait avancer une histoire, etc. Et en fait, il m'a marqué parce que je l'ai trouvé extrêmement décevant. On a vu du gameplay, on a vu des gens y jouer.
Ça n'a pas l'air ouf. Hein.
Non, en vrai, ça n'a pas l'air ouf. Il repose énormément sur son ambiance, mais c'est tout. De ce que j'ai vu. Donc très très déçu par rapport à ça.
Ça me rappelle le jeu russe qui ressemblait beaucoup à du BioShock.
Russe ?
Oui.
J'ai pas là comme ça. Mais...
J'en trouverai, c'est pas grave, une autre fois.
Ok. Un qui m'a beaucoup beaucoup plu, mais que j'avais déjà en tête, c'est Beyond Galaxy Land.
Je vois pas celui-là.
Alors, c'est un jeu d'aventure rétro-futuriste dont on se promène dans l'espace avec un cochon d'Inde, un pixel art que j'aime beaucoup. Un scénario qui a l'air aussi débile que ce que je viens de dire. Moi, je le suivais déjà un petit peu.
C'est Atomic Art.
Non. Non, quand même. Ah ouais, oui, d'accord. Oui, ok, le jeu russe.
Oui.
Oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais.
Tu vois, okay. C'est très l'ambiance, mais en vrai...
Le gameplay a l'air quand même vachement mieux dans Atomic Fall. Dans Atomic Heart,
oui,
pardon.
Certes, ok.
Bref, mais oui, donc dans Beyond Galaxy Land, on est sur un RPG d'aventure, avec on se promène un peu partout, dans différents trucs, il y a des combats en tour par tour, enfin, il y a plein de choses, moi, qui me parlent dans le délire. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé le pixel art, que je trouve extrêmement propre. Il y a pas mal de choses comme ça. Et puis... éventuellement finir avec un de ceux que je connaissais déjà, mais qui, comparativement à ce qui a été montré, m'a donné encore plus envie. Je vais parler de 4X, je vais parler de jeux de gestion, de Civilization
7.
Notamment Civilization 7, ouais. Qui lui, m'a pas plus attiré que ça.
Okay.
On en a vu beaucoup trop. On a beaucoup entendu parler, les devs, on les entend encore parler parce qu'ils étaient à la PAX West qui se déroulait ce week-end dernier, qui est le même genre, un petit peu, c'est un salon, etc. Et de ce qu'ils ont montré, bah, je trouve ça aussi, je ne vais pas dire moche, mais aussi aspect plastique, mobile, de
ouais.
Jeu mobile,
ouais, ben,
que le 6.
C'était déjà ça dans le 6. Hein,
voilà, oui. Mais c'est-à-dire qu'ils n'ont pas affiné ce côté-là. Et ils ont, ouais, en tout cas, ils sont partis sur une direction que, en tant que fan de Civilization, moi, j'ai quand même joué à la série depuis le 1, en fait, depuis 92. Donc bon,
c'est le vieux.
Oui, mais j'assume. Et j'assume d'être exigeant sur ce genre de jeu.
Vieux con.
En plus, réac, s'il te plaît. À deux doigts de voter Michel Barnier. Enfin, mais
l'avantage, c'est que comme il est Premier ministre, il n'y a pas besoin de voter pour lui.
C'est vrai, c'est trop tard.
Ah, c'est quand même bien fait.
C'est, oui, si on avait pu voter, tu vois, pour éviter ça, on l'aurait fait.
Bah oui.
Ouais, on n'est pas complètement con.
Bah, évidemment.
Mais dans Civilization, donc le principe.
Évidemment, tu écoutes du hardcore, putain. On peut plus.
Dans Civilization, on gère la destinée d'une civilisation, et dans le 7, ils annonçaient clairement avoir volé toute une partie des features à Humankind.
Oui, le côté passer de civilisation à une autre, enfin,
c'est ça.
Changer de civilisation
entre les ères.
Clairement, ils ont repris ça.
Ils ont repris le principe. Ouais. Ils ont une façon de l'aborder qui est pas forcément inintéressante, je trouve, dans la façon de l'expliquer, pourquoi pas. Mais ça m'a surtout permis de voir le concurrent de ça, qui est ARA History Untold.
Ah oui, c'est vrai.
Qui est la civilisation que pas mal de gens attendaient.
On en a déjà... Pour le coup, on en avait vu un peu lors du Summer Game Fest.
Encore une fois, ouais, c'est pareil. Civilization 7, on avait vu tiens, il existe. Là, on a vu du jeu. ARA, on a vu un peu plus encore. Et on a vu même des heures entières de jeu. Quelqu'un qui joue sans commentaires, sans rien. Et je trouve qu'il apporte des choses intéressantes au concept, au principe, avec le même défaut hein, de commencer... tu commences une partie, donc tu vois le tout début, quand vraiment t'es à l'âge de pierre, et que des mecs qui sont dans des cabanes en boue séchée à taper des cailloux. Comment est-ce que le jeu va aller jusque à la technologie, à te construire des buildings et aller dans l'espace ? C'est quand même une partie très importante, une gestion de cette évolution-là qui est primordiale, finalement, dans ce genre de jeu. Et en fait, ça me donne envie de finir en parlant d'un jeu français qui est sorti en Early Access très récemment, qui n'a pas été présenté à la Gamescom, mais je triche, mais il me reste que 5 minutes, donc je m'en fous.
Mais moi, il me faut aussi ma liste de jeux, et oh, triche.
Quoi ? Alors, je le dirai très très vite. Je prends 1 minute et demie. C'est parti ?
Vas-y.
Memoria Police.
Oui, ok, d'accord. il a l'air pas mal du tout.
qui est donc un jeu un city builder.
Oui.
Gestion comme ça, où on est censé aller de l'Antiquité à l'époque moderne, 2500 ans d'existence, qui est donc développé par le studio français 5PM, je crois que c'est ça.
Enfin, ouais, 5PM.
Studio, alors le jeu a l'air joli, moi j'ai joué un petit peu au playtest, il y a des trucs intéressants, il y a des trucs qui sont un petit peu inspirés de Anno, il y a des trucs qui sont inspirés effectivement de Civilization, on est dans on est dans quelque chose dans temps réel. On n'est pas en tour par tour, si je dis pas de bêtises.
Non.
Le mec, il va me prendre une petite minute.
C'est trop long.
Tu connais The Architect Paris ?
Non.
C'était un jeu où on était censé construire la ville de Paris. dans un city builder à la SimCity.
Ok.
Qui a été présenté en 2013.
Ouais.
Puis 2014.
Ah, mais qui est jamais sorti, le machin.
Il est sorti.
Ah.
Mais sauf que le scope a été complètement réduit à un moment. C'est-à-dire qu'ils ont dit juste, en fait, non, on va juste construire dans certains arrondissements, etc. On va juste machin. Ils ont pris une subvention du CNC, 200 000 euros, en 2017, 2018, je sais plus. Le jeu, ils ont remontré 2-3 trucs à l'époque. Ensuite, ils ont sorti une version Early Access, où on a constaté que, en fait, toutes les ambitions du jeu, qui étaient de créer vraiment un city builder, ont été abandonnées. Puisque c'était uniquement un jeu où on allait, on avait accès à certains quartiers de Paris, certains arrondissements, et on pouvait changer l'apparence des blocs des pâtés de maison, en fait. Voilà, c'était joli, c'était très bien fait, mais c'était extrêmement limité, et ce qui était animé, c'était uniquement certaines choses. Il y a la scène ne coulait pas, par exemple. C'est un exemple tout con, mais pour te donner une idée de l'immersion dans le truc. Et le jeu était à moitié cassé aussi. Quand il est sorti en version 1.0, un ou deux ans plus tard, il n'était pas complètement terminé. Il y a des gens qui ne pouvaient pas y jouer parce que c'était complètement pété. Donc en gros, on était parti sur un truc très très prometteur qui avait, à mon avis, été allé trop haut pour ce qu'ils étaient capables de faire ou ce qu'ils avaient les moyens de faire. La preuve, le studio Enodo à l'époque a fait faillite en 2022. Et les mêmes personnes qui ont fait faillite avec Enodo ont recréé 5PM mm-hmm. avec des investissements extérieurs pour faire Memoriapolis. Mm-hmm. Malheureusement, ça pose question. Où est-ce que va le jeu ? Où est-ce qu'il, à nouveau, il n'est pas parti sur quelque chose de beaucoup trop ambitieux par rapport à leurs moyens, par rapport à leurs capacités. Voilà. Le jeu, en tout cas, a bien marché, a bien commencé. Memoriapolis est sorti en Early Access il y a 10 jours, un truc comme ça, il marche plutôt bien. On leur souhaite d'aller aussi loin qu'ils le veulent, mais bon, malheureusement, dans le genre 4X, civilisation qui va se développer sur des milliers d'années,
non, mais de
ça me semble intéressant de l'évoquer.
De toute façon, toi, ton problème, c'est que tu crois pas aux secondes chances.
C'est une très bonne question, c'est une vraie question, c'est une vraie question. Est-ce que des gens qui ont coulé une boîte avec en proposant quelque chose qui finalement en prenant de l'argent qui a pas pour donner quelque chose qui a rien donné.
Moi je peux te répondre en disant que moi je vote Trump. Donc.
Mais je savais que t'étais un connard. Ça fait 2 ans maintenant qu'on fait cette émission, Xavier. Je le sais.
Très très rapidement. Oui. Je vais parler d'un jeu qui s'appelle Hollow Home.
Oui.
Qui a l'air absolument incroyable. En gros, vous voyez Disney, vous voyez Disco Elysium. Imaginez Disco Elysium avec le contexte de This War of Mine. Vous allez, et le jeu a l'air absolument fou. J'ai joué à la démo, à la fin de la démo, je me disais, ce jeu va me casser en deux. Mm-hmm. Et je suis prêt. My body is ready. Je parle de deux jeux rapidement qui étaient très beaux, juste parce qu'ils étaient très très beaux. Eternal Life of Goldman. Mm-hmm. En gros, c'est un jeu de plateforme avec un dessin à la Cuphead. Qui a été fait par le studio We Happy, qui a sorti This Is Police, donc changement complet.
Oui. C'était un truc narratif, une gestion. Ouais.
Voilà. Et là, je sais pas si t'avais vu les images du jeu, mais c'est Cuphead avec le, au lieu que ce soit un run and gun, c'est plutôt le gameplay de DuckTales.
Ok.
Donc très plateforme. Le jeu a l'air superbe. Côté point and click, toujours encore plus beau. Mais en plus, indonésien, donc j'ai pas le choix. C'est Kejora.
Oui, Kejora. T'avais parlé de ça.
Et magnifique. Et j'ai fait la démo, ça a l'air trop bien. Avec le côté monstre et tout. Ah là là, ça va être super. Ça va être super. Et le dernier truc dont je vais parler, c'est le jeu où je suis censé être ultra excité, mais j'ai un peu peur. C'est Coffee Talk Tokyo.
Eh oui.
Coffee Talk Tokyo, annoncé sur pendant le Nintendo Direct.
Oui, le Nintendo Direct qui a suivi, enfin qui n'était pas pendant Direct, la Gamescom.
Qui a annoncé aussi un DLC gratuit pour Sea of Stars. Mm-hmm. Toujours les gens comme The Messenger qui sortent le DLC gratuit après, voilà. Mais Coffee Talk Tokyo, il va sortir en 2025. Il me fait un peu peur parce que je sais qui ne va pas l'écrire.
Oui.
Donc
voir comment l'héritage va être
Et donc j'ai un peu plus peur. Je sais que ça peut être potentiellement un super jeu, mais je sais que c'est un jeu qui repose essentiellement sur comment il est écrit, et je sais que
Après, peut être voilà, excellent, comme ça peut être décevant. Voilà.
Après, je sais que les gens qui l'ont présenté et qui l'ont écrit sont ceux qui avaient repris le boulot. Le boulot commencé par, par famille, juste après son décès, qui a permis de finir Coffee Talk 2, qui est un succès parce qu'il est très bien. Mais je sais pas, en partant de zéro, si ce sera aussi bien. Après, voilà, je sais que les fans reconnaîtront déjà dans le trailer un personnage bien connu qui était dans le Coffee Talk premier du nom. Donc voilà, on verra.
Ok.
Mais voilà, bref, la Gamescom, plein de jeux ultra intéressants auxquels on veut jouer.
C'était positif, clairement.
Waouh, oui.
C'était un très bon moment.
J'avais bizarrement plus de choses positives à dire que sur le 3. Mmh. Le 3, il y avait énormément de trucs. Mais tu te posais plus de questions. Là, il y a des jeux où tu dis waouh.
Ouais.
Mais bon, ça, c'est parce qu'on est vraiment des gens liés sur l'indé.
Et je pense aussi que c'est la force de la Gamescom. Et que c'est pour ça qu'elle survit et qu'elle grandit encore.
Exactement.
Voilà.
Eh ben, écoute, merci Romain.
Bah, merci Xavier.
Voilà. Donc, c'était la première de la saison pour
le nerf de la game.
On se retrouve la semaine prochaine. Et là, on a été super élogieux et on a parlé de trucs super bien. Sauf qu'on parlait, à un moment, on a parlé de Peter Molineux. La semaine prochaine, on va aussi parler de gens horribles et des gens très courageux aussi. Voilà.
Très bien. Eh ben, passez une bonne soirée et une bonne semaine.
Salut.
Salut Xavier.